Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
Alors on parle depuis hier des valeurs asiatiques. Un premier débat sur les fameuses valeurs asiatiques avait eu lieu au début des années 90.
Oui, mais c'était dans un contexte précis, au lendemain des événements de la place Tiananmen, au cours desquels des milliers d'étudiants chinois qui manifestaient pour la démocratie ont été massacrés par le régime communiste. Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, avait mis en garde contre l'importation de ce qu'il considérait comme des valeurs occidentales, en gros les droits de l'individu face à la prééminence de la cohésion sociale. Il redoutait, disait-il, que la propagation rapide de cette aspiration à la démocratie libérale à l'occidentale déstabilise tous les gouvernements de la région et y sème le trouble. Alors ce qu'il entendait par « valeurs asiatiques » se confondait quelque peu avec le régime qu'il avait lui-même imposé à Singapour. Une petite nation de gens travaillant dur sous la direction supposée éclairée d'une petite élite dirigeante incorruptible et clairvoyante, au nom de la philosophie confucéenne. Les Singapouriens sont généralement considérés comme ayant troqué leur liberté civique contre un niveau de développement, de bien-être et de sécurité en effet assez exceptionnel. Lee considérait l'Occident tout entier comme décadent. Même l'Australie voisine, il disait, c'était une réserve de white trash. Déjà à l'époque, un des plus fameux dissidents sud-coréens, Kim Dae-jung, s'était opposé aux thèses de Lee sur les valeurs asiatiques. Le dirigeant singapourien, disait-il, prêche pour sa propre paroisse. Au nom des valeurs asiatiques, c'est sa propre autorité et son propre pouvoir qu'il défend. Kim Dae-jung devait d'ailleurs être élu président de la République de Corée en 1998, une Corée devenue déjà depuis un certain temps une démocratie incontestable et exemplaire. Et la théorie qui accorde une supériorité aux valeurs asiatiques dans la mesure où elles assurent une plus grande harmonie aux sociétés, marquée par la philosophie confucéenne, avait subi un fameux revers lors de la crise asiatique de 1997. Dans son livre que je citais hier, « The Future is Asian », le politologue indien Parag Khanna reconnaît que la célébration des valeurs asiatiques était alors quelque peu prématurée. Mais c'est pour ajouter aussitôt que les Asiatiques, eux, ont tiré toutes les leçons de cette crise de 97 en se débarrassant des gouvernements paternalistes incompétents et en mettant de l'ordre dans le capitalisme de copains qui régnait à l'époque en Asie, alors que les Occidentaux sont loin d'avoir tiré, eux, toutes les conséquences de leur crise de 2008.
Mais alors Brice, comment résumer le confucianisme? Vous avez deux minutes, bon courage.
C'est une philosophie conservatrice. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi Mao Tse-tung l'a combattue vigoureusement et en particulier durant la révolution culturelle. C'est une philosophie conservatrice qui prône une forme de société très hiérarchisée sous la direction d'une élite méritocratique et paternaliste. Elle met l'accent sur la responsabilité de l'individu envers l'État et c'est d'où le fait qu'elle est parfois présente comme une sorte de religion civique. Elle célèbre la famille et au sein de celle-ci la prééminence du père. Elle prône le respect des anciens. On a dit parfois du confucianisme que c'était l'équivalent asiatique du protestantisme chrétien. Travail, droiture, sens des responsabilités, décence et réserve. C'est pourquoi d'ailleurs le confucianisme a accompagné la modernisation dans plusieurs pays d'Asie orientale, comme le démontre une universitaire allemande, Carmen Elisabeth Schmidt, dans un article paru l'an dernier dans la revue Asian Journal of German and European Studies. Elle y développe une thèse fort intéressante. Le confucianisme, écrit-elle, a favorisé et accompagné la première modernité en Asie orientale. Les sondages montrent que les pays marqués par cette philosophie sont à égalité avec les pays protestants européens. Ceux qui ont opéré le plus nettement le passage d'une conception religieuse du monde à une vision sécularisée et rationnelle. L'importance de l'éducation, le respect de l'autorité, des règles établies et des hiérarchies a accompagné cette première modernisation weberienne, si l'on veut. Ces pays d'Asie orientale ont connu une modernisation économique très rapide, pilotée par des structures bureaucratiques jouissant d'une forte autorité. C'était, souvenez-vous, l'époque des dragons asiatiques. Par contre, le confucianisme, parce qu'il met l'accent sur l'autorité et la responsabilité et non pas sur la liberté individuelle, a entravé la seconde modernité, celle qui voit monter l'exigence d'expression individuelle et qui accompagne le cosmopolitisme culturel. Mais elle montre aussi, cette professeure allemande, que contrairement à la thèse des valeurs asiatiques, l'aspiration à la démocratie demeure très élevée en Asie et même en Chine, même si le contenu que donnent les Chinois à ce concept de démocratie est peut-être moins libéral qu'en Occident. La démocratie autoritaire leur paraît garantir plus de stabilité. Par contre, les Chinois plébiscitent l'égalité entre les sexes et les droits de l'homme. Davantage, figurez-vous, que les Japonais et les Coréens. Les élections libres sont peut-être un peu moins plébiscitées. Bref, les valeurs asiatiques pourraient bien être un mythe de plus.